j'entends là. Pas du tout, non. Bah non, Scully n'est pas arrivé, moi ça me va pas.
Oh, ça va, du stress.
Bah, mais t'es pas rasé. Tu seras pas...
Je suis au max là.
Mais non, oui, bah c'est ça le problème.
On a l'antenne ?
Bah oui.
Salut.
Allez, en place à ce week-end. Allez,
allez, c'est parti. Vous écoutez toujours Radio FMR, nous sommes le samedi 26 octobre 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, retrouvez du sport toujours et les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Janot Dead. Et à 17h, FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici notre série d'aliens que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Il y a quand même eu des films israéliens qui ont été déprogrammés suite aux événements qui se passaient dans les territoires occupés.
Tu vas pas ressortir cette histoire du frigo. Là.
Ah non, j'ai pire. Mais si tu veux pas en parler, ok.
Non, mais là, c'était un buzz qu'on a voulu faire et qui a très bien marché d'ailleurs.
Hein. Ah, ça, il faut le reconnaître, ça avait été très bon.
Non, parce que la presse est ce qu'elle est. Hein, et donc, c'est ça.
Voilà. Exactement. On le reconnaît.
Non, parce que franchement, c'était surtout un film pas bon et qu'on voulait pas passer.
Radio FMR présente le supplément week-end
Thunderbuster mixé par Wax Audio. Sent mal cette émission.
Ah oh, bah non, mais vous n'écoutez pas Cinécure sur Radio FMR. Non, on est bien samedi.
Oh, faites chier. Bon, Scully est arrivé, mais on avait dit la teinte en rousse. Filez-lui en catastrophe une bouteille de whisky.
Ouais, mais elle a un super casque.
Ah oui. Ah bah quoi, mais non, mais je ne pouvais pas prévoir, moi le mardi je bosse, je peux pas les écouter.
Mais c'est trop bien, tu me fileras le morceau.
C'est une compilation qui s'appelle, si je me souviens bien, Halloween Booty, qui est diffusée tous les ans. C'est une compilation en fait de mashup qui sort tous les ans depuis environ 5-6 ans pour à l'approche d'Halloween. Donc il y a les meilleurs mashups d'horreur.
Alors tu peux expliquer ce que veut dire le terme mashup? Parce qu'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, voire surtout des plus vieux quand ils comprennent pas.
Je crois que les petits jeunes ils savent très bien, malheureusement. Un mashup, tout simplement, c'est quand on prend deux morceaux différents, a priori qui n'ont absolument rien à voir, et que un apprenti ingé son ou un vrai ingé son dit, eh ben les deux peuvent très bien se mixer ensemble. Et il en fait un troisième morceau complètement différent.
Donne-nous des exemples français.
Moi, j'en connais un. Le mec s'appelle, il a un nom de merde, il s'appelle DJ Mool. Et je te promets, c'est excellent. Il prend des morceaux qui n'ont absolument rien à voir, du genre Joystar avec les Who, avec les Cure.
Alors,
et
ça, c'est pas DJ Mool, c'est.
Lui l'a fait.
Zebra.
Non, DJ Zebra, il l'a fait aussi, mais DJ Mool, je t'en apporterai la prochaine fois et tu vas voir. C'est à tomber, c'est incroyable.
Ok, on a aussi Lou et Placido, quoi, qui font des trucs comme ça, quoi, qui sont vraiment très très sympas, quoi.
Ouais, parce que, j'ai du DJ Zebra, évidemment, qui est sur une radio commerciale.
Mais cherche DJ Mool, tu vas voir. Je lui fais de la pub au passage.
Oui, tout à fait. Bah, on mettra les liens, et puis voilà.
Plutôt de fucking. Que si je vous fais écouter, là, ça va pas être génial avec mon iPhone.
Dis-moi, toi, il va t'arriver des bricoles, hein?
Moi, des bricoles?
Ouais.
Tu crois que j'ai peur de toi?
Avec
ta chemise à la Tom Selleck. Non, parce qu'il faut savoir que voilà, monsieur.
Ok, 3, 4.
Vas-y, balance ta sauce. Tu me l'as remixé ou quoi?
Ouais. N'ayons pas peur.
C'est la version longue.
Ouais. Eh bien, il est l'heure du curé des audilecteurs.
Waouh!
Alors cette semaine dans le courrier des audilecteurs, nous avons reçu pas mal de courriers. Et évidemment, comme vous le savez toutes et tous, j'ai une tradition en début de chronique. Je me charge de lire les 25% de courriers en retard que j'ai accumulés avec les semaines. Alors je vais commencer par mes 25% de courriers en retard. Donc ça commence comme ceci. Salut à tous, bravo pour votre émission de la semaine dernière. Vous étiez frais, plaisant, avec tout un tas de choses passionnantes et pertinentes à partager avec nous. Vous êtes des experts passionnés et on aime ça. Xavier était tout euphorique et on le comprend bien car ses camarades sont quand même géniaux, il faut le dire. En même temps, c'est normal. En même temps, c'est normal, je pense que Xavier va se calmer d'ici le deuxième numéro du supplément week-end. En effet, être au taquet comme ça à chaque émission, ce serait vraiment très louche. Bien à vous, c'est signé Richard V.
Pour le coup, tu l'as réécouté ou quoi?
Oui.
Il manque la première partie, enfin c'était un bordel.
C'était n'importe nawak.
Ah ouais, complètement. Juste un truc à propos de l'intro que vous avez entendu. C'est vrai qu'on avait Rodolphe Village la semaine dernière des Cinémas Utopia, qui est aussi l'initiateur de l'expérience vidéo en poche. Et quand même, ça faisait un bail qu'on se chauffait les uns les autres. Et franchement, c'était une excellente émission.
C'était vraiment très intéressant.
J'adore, c'est agréable d'avoir des
invités. C'est très agréable d'avoir des invités qui plein de choses à partager. Bon, alors je poursuis. J'ai un deuxième courrier qui nous vient de Kevin, 14 ans. Salut les vieux, je sais pas qu'est-ce que c'est que les X-Files, mais ça a l'air d'être du bon porno. Moi et mes potes de 4ème, on aimerait trop voir les films. Vous pouvez nous filer une bonne adresse, s'il vous plaît? PS, ne le dites pas à ma mère. Donc tout à fait, Kevin, ne t'inquiète pas, tu auras toutes les informations sur les liens porno des X-Files sur le site www.supplementweekend.fr.
Et oui, puisqu'on a pas dit qu'aujourd'hui, on faisait une spéciale.
Et oui, parce que tu me fais commencer avec le courrier des audilecteurs, mais il faut savoir qu'on fête quand même les 20 ans de la série dans quelques jours, c'est ça?
Non, c'est déjà passé en fait. Le premier épisode était diffusé sur la Fox le 10 septembre 93, j'avais dit qu'on ferait une spéciale, Thomas a dit « Non !» Du sport a dit non.
C'est terrible.
Et toi, t'avais rien à dire.
Non.
T'étais pas là.
Moi, je tweete, moi. Bon, alors, est-ce que tu me laisses continuer mon courrier?
J'ai encore
du courrier.
On a le temps.
Alors, c'est Antoine qui nous a écrit, qui nous dit « Je regardais tranquillement la télé jusqu'au moment où, outré, je tombe sur un épisode d'X-Files où l'agent Mulder était en train de faire des choses très olé-olé avec des filles. » Disons, pas très débridés et je veux pas parler de leurs yeux. J'ai l'impression qu'il les a trouvés, ces dossiers X. Pourrais-je avoir des explications ? Merci. Eh bien, Antoine, ce que tu as vu à la télé n'était rien d'autre qu'un épisode de Californication.
Et ça aussi, on va en parler tout à l'heure avec la carrière des acteurs, des réalisateurs et tout ça. Avant, après, tout ça, parce du sport a dit « Non, je ne parlerai pas des X-Files. »
Ah, il a décidé.
Si, un peu.
Bah, un petit peu, quand même. Faut pas déconner.
Parce que bon, bah, je peux quand même me targuer d'avoir eu la série dès le début, les premiers épisodes sur M6.
Je croyais qu'il allait me dire sur la mule. Non, c'était sur M6 un dimanche.
Non, c'était le samedi soir et c'est M6 qui a instauré cette histoire de faire, je passe trois épisodes à la suite.
C'était le dimanche à 17h.
La trilogie du samedi.
Personne ne l'a vu.
Non, c'était plus tard, ça.
La trilogie du samedi, c'était à la suite justement de ses diffusions.
J'ai un dernier courrier, allez. Bonjour à tous, je vous écoute en direct tous les samedis. J'ai la sensation que vous faites partie de ma vie et pourtant, je ne vous ai jamais vu. J'aime passer du temps à imaginer à quoi vous pouvez ressembler, rien qu'à votre doux timbre de vos voix. Alors, Duce, je t'imagine les cheveux longs, blonds, vénitiens, les yeux bleus et musclés, puisque tu aimes le sport. Déjà, tu vois, c'est pas sympa ce que tu fais, Xavier. Ultimatum, je te vois petit, roux, avec une frange façon footballeur allemand des années 80. Morgan, je pense que tu es complètement imberbe, avec un tout petit nez, des lunettes hipster et que tu aimes porter des ponchos taïwanais. Quant à Daskritch, alias Xavier, mon chouchou, quand je t'entends, et je veux dire qu'on t'entend très bien, j'ai la sensation d'être tendrement enlacé par Mike Brandt. Merci. PS, non, je déconne, j'ai vu vos gueules sur Facebook, continue de faire de la radio.
Et c'est ça, le pouvoir de la radio.
Voilà, c'est signé Sandra Bellock.
Le pouvoir de suggestion.
À la semaine prochaine.
Merci. Et on lance le dossier, ouais, tranquille.
C'est tranquille, aujourd'hui, on y va tranquillement.
Ouais, moi je pense que ça va doucher. Oh, du sport, il dit non, la boucle là, Red Snapper, elle est cool et tout. Dites encore. C'est quoi ces conciliabules?
On est en train d'enfoncer des portes ouvertes.
Ouais. Ah bon?
Oui.
Ce serait sympa, mais après, il faut réparer quand même le matériel de la station.
Cette musique, elle est méga culte. Moi, c'était ma sonnerie sur mon premier téléphone portable.
C'était absolument
en monophonique.
On parlait en fait d'un sujet qui va bientôt être dans quelques années. C'est déjà le cas maintenant, quoi. La science-fiction, carrément.
Ah oui.
Tenir dans un boulot
de l'antique
dans la même boîte 20 ans.
Ouais. Et on
non,
peut
ça s'appelle un placard, monsieur.
Non, je crois pas.
Ah bah non. Si, Mulder est dans un placard, mais ça je verrai tout à l'heure.
D'accord. Okay.
Bon, pour faire un bon dossier X-Files, il me faut une fille. Et vous allez me lui faire mettre une perruque brune.
Brune ?
Je l'ai déjà sur la tête, en fait.
Non, oui. Et ensuite, eh ben, bien évidemment, tu vas me faire une gueule de catholique complètement timbrée et tout ce qu'il faut, là.
Ouais, tu crois vraiment ce que tu dis, là ?
Là, t'es parfait, t'es dans le rôle. T'es parfait, bouge pas, Sushi. T'es magnifique.
J'ai cru la voir.
Ah putain, waouh.
Toujours plus.
Bref, tout ça, bien évidemment. Franchement, cette musique entre nous, elle me les brise. En fait, pour préparer cette émission, je me suis réécouté les 2 minutes du peuple. Il avait fait toute une série sur les X-Files.
Exact.
Et au bout d'un moment, Mulder en a ras le cul et tape la gueule du pianiste et ça m'éclate. Voilà, donc on va mettre un autre fond sonore pour la preuve. Mais néanmoins, la musique, je vous promets d'autres choses. Je vous promets des choses totalement différentes. Et bien évidemment, X-Files, on en parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un double événement. Primo, il y a eu le 22 décembre 2012, qui est une date importante dans la mythologie de la série. Mais surtout, eh ben voilà, on a laissé filer les 20 ans de la série. Ça fait déjà 20 ans, ça fait bizarre.
Est-ce qu'on va pouvoir parler des films qui sont des navets ?
Oh, entre autres. Ah. Et pas que ça, loin de là.
J'aime ton rire. Ça.
Oui, je sais, je le prépare. Nous sommes sur la voie de la domination mondiale. Bien évidemment, avant de cela, avant les X-Files, le fantastique, la science-fiction et les complots, c'était quelque chose que l'on avait régulièrement à la télévision, bien heureusement, dans des séries. Et pour cela, eh ben, je vais citer quelques séries comme Au-delà du réel, La quatrième dimension, Les envahisseurs, Kolchak, The Night Stalker, qui, ce qui paraît, aurait inspiré.
Qui a inspiré justement Chris Carter. Quoi,
Chris Carter pour, et Histoire de l'autre monde de George Romero et tout ça, qui aussi avait inspiré Chris Carter. Il faudrait que dire que Carter, quand même à l'origine, est un scénariste de soap opéra pour Disney. Et il en avait un petit peu ras le cul et il a dit « J'ai envie d'Alien. J'ai envie de complot où le gouvernement nous mord. Je veux des monstres qui se liquéfient et tout ça. Je veux une horreur indicible. »
Il a dit ça texto, comme ça.
Je sais pas, mais en tout cas, ça lui est venu comme ça. Et bien évidemment, il était inspiré par des séries. Et du sport est en train de fouiller dans son sac, justement, les séries en question. Et il m'oblige, du coup, à chercher... non, du sang. On peut parler des séries.
Non, je cherche mon stylo.
En voilà un d'urgence, voilà.
Ça aussi, ça va être une antiquité dans pas longtemps.
Est-ce que tu peux parler justement des séries qui ont été bien avant justement les X-Files ?
Ah, merci pour la patate chaude. Merci.
Bon, il y a deux séries quand même emblématiques des années 50, à savoir La quatrième dimension et Au-delà du réel, qui étaient des scénettes indépendantes en soi. Hein.
Oui, mais...
voilà, merci beaucoup, c'était Dus.
Oui, mais enfin, bon, je préférerais parler plus de La quatrième dimension, quoi, que au-delà du réel, quoi, qui est quand même, on va dire, pas
dur,
dispensable.
Vincent.
Pas dispensable, mais pas essentiel non plus.
Oh, vas-y, on a le temps, tu peux y aller.
D'accord. Alors, quatrième dimension, c'est quand même la série qui a été instillée par un personnage absolument excellent, quoi, et qui a réussi justement, quoi, à imposer le concept de la quatrième dimension et aussi à s'entourer, quoi, surtout de très très bons écrivains, de très très bons scénaristes, on va dire, mais qui sont écrivains au départ, quoi. Et dans le lot, quoi, ben on a pratiquement les plus grands de ce qui fait le fantastique, la science-fiction de l'époque.
Mais alors, pour les petits jeunes comme moi des années 90 qui connaissons comme ça la quatrième dimension, est-ce que tu peux juste nous rappeler le pitch un peu de la série ? C'était quoi en fait ?
Alors il n'y a pas tellement de pitch parce que bon, bah, ce sont des histoires qui sont individuelles. Quoi. Ouais. Enfin, chaque épisode n'a rien à voir avec l'épisode précédent.
Il n'y a pas des héros, c'est les mêmes héros ?
Absolument pas.
Ah d'accord.
Absolument
d'accord.
Pas. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Hein. Ce sont la quatrième dimension. On peut regarder ça dans n'importe quel ordre. N'importe quelle saison, il y a pas de problème. Il n'y a pas de personnages récurrents. Il y a eu des acteurs qui ont joué dans plusieurs épisodes. Je pense particulièrement à un certain William Shatner, qui à l'époque n'était pas tellement connu, quoique il avait déjà obtenu un Oscar avant de commencer la série du meilleur second rôle pour son rôle dans Le procès à Nuremberg.
Ah oui, quand même.
Voilà. Ah, d'accord.
Ok.
Ok. Bon, là, ça calme tout de suite.
Mais respect, mon capitaine.
Ok. Mais qui était quand même un acteur vachement inconnu, qui avait tourné un excellent film de Roger Corman. Le seul film de Roger Corman dans lequel, on va dire, il y a une espèce de fond politique et où on comprend de quel côté Roger Corman se place, ce qui n'est pas le cas de tous les autres films qu'il a pu faire, qu'il a pu produire. Ok. Et dans lequel William Shatner était carrément excellent, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des épisodes dans La Quatrième Dimension qui sont un petit peu plus légers, plus dispensables, on va dire. Mais par contre, ça a donné lieu à... Ça a inspiré une génération de cinéastes aussi. Parce qu'il faut se rappeler quand même que au début des années 80, eh bien, les plus grands, les têtes d'affiche du cinéma qui étaient indépendants, américains qui étaient indépendants avant, mais qui est passé dans le mainstream, Spielberg, Joe Dante, John Landis et George Miller, ont décidé de refaire le film. Mais seulement, ce film, c'était en fait 4 épisodes.
D'accord.
Qu'on pouvait voir au cinéma et qui étaient en fait des reprises d'épisodes qui avaient déjà existé.
Alors
qui
ça m'intéresse, ouais, j'aimerais bien voir ça.
Et là, et d'ailleurs, c'est à l'occasion du tournage de la séquence de John Landis que John Landis a failli arrêter le cinéma. Parce qu'il faut savoir que Vic Morrow, qui était le personnage principal dans cet épisode, a trouvé la mort lors du tournage parce qu'il y a eu un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie également, non seulement à Vic Morrow, mais également à 3-4 personnes qui faisaient partie de l'équipe technique, que John Landis a eu des problèmes financiers et judiciaires absolument incroyables par la suite. C'est normal parce que aux États-Unis, tout se règle devant les tribunaux. Dès qu'on peut gratter un peu de pognon, il n'y a pas de problème, on y va à fond les manettes. Et c'est surtout pour les avocats que je dis ça, entre autres. Et que John Landis, dans un docu qui est sorti il y a, on va dire, une dizaine d'années, disait que j'étais complètement dégoûté. J'ai arrêté de faire des films pendant 5 ans, 6 ans, parce que je ne savais même pas si j'allais continuer dans ce truc là. Ça m'a bouffé la vie, ça m'a
un truc pareil,
alors que lui-même au départ, lorsque ça s'est produit, déjà était dévasté, simplement parce que le fait que
c'était des amis aussi
pour une industrie de divertissement aboutit à des morts comme ça, on se dit c'est pas trop normal, ça doit plomber un petit peu l'ambiance, quoi.
Bien sûr.
Et si on parlait plus, je m'excuse, je reviens un peu à toi, c'est vrai qu'il y a eu un renouveau dans les années 80 sur les versions un peu plus horrifiques, justement parce qu'il y a eu Au-delà du réel qui était revenu avec une série un petit peu plus violente. Il y a eu justement Georges Romero qui est arrivé avec Histoire de notre monde, qui en fait est une adaptation des Contes de la Crypte, sauf qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le nom. Donc qui est arrivé à la télévision. Mais il y a une série des années 70, Call Shack, The Night Stalker, que je connais absolument pas.
Là c'est pareil, quoi.
Là, voilà. Donc là on ne sait pas, voilà.
Et c'est pourtant la série qui a inspiré Chris Carter au départ et qui lui a donné l'envie justement de redévelopper.
Mais on était arrivé dans le noir, dans les versions très 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 inquiétantes et tout ça. Et puis le 17 septembre 93, la Fox s'est lancée et sur une série qu'ils avaient retouquée déjà deux fois, mais ils se sont dit après tout pourquoi pas, et ils l'ont foutu en relais, enfin ce qu'on appelle un prime time, c'est-à-dire le jeudi à 9h du soir.
Ouais.
Et direct, ça va faire peur. Et on découvre un peu la sauce X-Files dans cette première saison. Donc un petit peu le style, de la série. C'est l'histoire d'un mec qui est au fin fond d'un placard. Là, on l'a oublié. Après les toilettes, après la réserve, il y a encore quelqu'un dans le sous-sol. Voilà, il est tout au fond, là-bas. Il a été relégué là parce qu'il a pété un câble suite à une affaire.
Non, c'est parce que au départ, quoi, c'est un super profiler et c'est le type qui a réussi à faire capturer un super tueur en série. Des bouquins ont été écrits par la suite et tout. C'est une sommité au FBI. Mais manque de bol, c'est un personnage complètement incontrôlable. Et donc, bah, on se dit, bon, bah, ok, quoi, il a peut-être des bons résultats, mais bon, le mec, il fait, il a pas le profil du G-Man classique, l'ancienne appellation des gens qui faisaient partie du FBI. Et donc, c'est pour ça qu'on le fout dans ce placard. Et qu'on lui adjoint, et c'est là l'entrée en scène de Scully, quelqu'un, un autre agent du FBI qui a plus une profession médicale quoi une profession scientifique quoi dans le FBI plutôt qu'une profession de policière simple bête et méchante pour justement essayer de surveiller au départ et voir qu'il ne remue pas trop dans les brancards et qu'il fasse pas trop de vagues.
D'accord.
C'est ça. C'est-à-dire, tu es dans ton placard, on t'adjoint quelqu'un, et surtout, ne sors pas trop du placard. D'accord. Et fais pas trop de vagues. Et en ça, fait, c'est le pitch d'accord. de base.
Et il va réussir à l'embrigader, en fait.
Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ah, ça d'accord. va prendre beaucoup de temps. Les deux personnages sont antagonistes opinions et de par la façon de suivre les enquêtes et des fois de les résoudre ou des fois de continuer dans le vague. Mais ça fait partie des différentes histoires internes, l'histoire du complot, la zone 51 et tout ça, qui apparaissent un petit peu plus tard dans la série.
D'accord.
Mais elle est là au départ et pendant au moins 3-4 saisons, ils sont pas d'accord sur la façon de mener les enquêtes, sur la façon d'interpréter certaines choses.
C'est long, 3-4 saisons.
Oui, mais bon, il faut dire que la
mais
série.
Mais ça marche bien, c'est justement.
C'est
justement ça qui a fait justement la sauce de la série, c'est le fait que. Mais enfin, je vais finir par te convaincre que les extraterrestres existent. Non, mais pas du tout. C'est pas une preuve, ça.
Ouais, d'accord.
Et c'est justement ce qui fait toute la chose, toute la montée de la série, c'est justement, il est seul contre tous et la personne avec qui il est ne le croit absolument pas.
Oui, mais aussi.
Il est seul.
Au niveau de l'écriture, il y a aussi l'histoire du ressort romantique, quoi, qui est récurrent, on va dire, dans toutes les séries américaines.
Ouais.
À savoir, un personnage masculin, un personnage féminin, est-ce que ça va déboucher
à
sur une romance
récemment
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils vont finir par se mettre ensemble et tout. Alors, c'est l'un des fils conducteurs, en fait, de la série au fur et à mesure des saisons. Ça c'est un truc récurrent de toute façon dans les séries américaines. C'est ça aussi qui est vachement intéressant parce que on se dit, je crois que c'est à la 6e ou la 7e saison, on dit mais allez, tu vas l'embrasser, allez. Ça se passe et encore il y a une petite zone de non-dit comme ça quoi qui est vraiment très très intéressante et habilement ficelée, il faut quand même l'avouer quoi, et qui permet justement quoi de faire durer un petit peu ce suspense quoi. Et ça permet également de désamorcer les autres fils conducteurs qu'il y a dans cette série, parce qu'il y en a beaucoup, ça il faut pas faut quand même le dire, qui sont peut-être un petit peu plus glauques, des fois un petit peu plus porte-nawak, je dirais franchement, quoi, parce que l'histoire de la zone 51, l'homme à la cigarette, le complot et tout ça, c'est bien foutu, mais il y a des coups où, nous, spectateurs français lambda, on va dire, ou européens, quoi, les gars, c'est bon, là, faut quand même pas trop pousser, quoi, mais il faut quand même dire que, ça a été vraiment très 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 bien écrit au départ par Chris Carter et par tous les autres scénaristes, parce que
il y en a eu d'autres,
il y en a pas eu qu'un, il y a eu de célèbres auteurs d'ailleurs de fantastique ou de science-fiction qui ont frappé à la porte, qui ont dit s'il vous plaît est-ce qu'on peut écrire un épisode. Super. Donc c'est comme ça que tu as William Gibson qui est le grand prêtre du cyberpunk, qui a fait deux épisodes coup sur coup.
C'est ton pote ça, William Gibson,
Je suis fan de lui. C'est pas le seul d'ailleurs,
les yeux levés au ciel.
Je crois qu'il y a eu, on m'a dit que c'est Clark avait fait une proposition. Il y a plein d'auteurs en fait assez exceptionnels qui sont greffés là-dessus.
Et là
où ça marche aussi pas mal, c'est que le FBI au début des années 90 a une réputation calamiteuse, une réputation de très grosse administration qui n'est pas très compétente, qui s'est foirée plusieurs fois sur des affaires. Donc ça tombe bien, du coup, il y a des trucs dans les placards et tout ça, il y a cette petite atmosphère, donc c'est facile de relancer à partir de là, surtout que le FBI, c'est une autorité fédérale qui peut intervenir n'importe où aux États-Unis sous certaines conditions dans certains cas. Et souvent d'ailleurs c'est des bisbis avec les autorités locales.
Et est-ce que vous pensez que les séries comme ça, à la NCIS, à la... quand il y a du FBI, Portée Disparue, sont un petit peu poussées par ces agences-là réelles avec des personnes
Alors,
qui...
Alors NCIS ça n'existe pas.
La NCIS n'existe pas, mais ça, c'est toujours pareil, c'est de la publicité, c'est de l'autodéfense nationale quoi, c'est de la pub, c'est de la propagande.
Il y a une chose qui est relativement importante, qu'on oublie totalement en France, c'est que en France,
nous, tu, montres, PJ,
tu montres le... Tu montes le drapeau tricolore, soit tu es une allumée style d'encale féminine s'est viandée en 2007, soit tu es Front National.
Ouais, j'ai vu la.
Voilà. Toi,
vu.
Exactement. Alors que aux États-Unis, le drapeau.
Ils sont très patriotes, mais. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est officiel ou enfin est-ce qu'il y a vraiment une part du gouvernement ou quelque chose comme ça qui se sert des scénaristes pour faire passer des messages et. Je sais pas, enfin je te demande.
Y a une chose qui est vraie, par contre, c'est pas dans les séries, c'est plus dans les films, ouais. Et c'est plus vis-à-vis de l'armée américaine. L'armée américaine mobilise régulièrement une part importante de ses troupes pour du cinéma.
Ah, je me suis
c'est de la propagande
si des vrais...
plus ou moins directe.
D'accord.
Ils ont droit de lecture complet sur le script.
Bien sûr,
il y a des scripts qui n'ont pas été validés par l'office du cinéma du Pentagone. Donc du coup, ils sont obligés de produire à part. Maintenant, les effets spéciaux, mais à une autre époque, c'était soit du stock shoot, soit faire appel à des armées d'autres nations.
Ça la fout
ce
mal.
Ce qui était très délicat. Il y a un autre cas qui est un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'une ville qui était pratiquement en banqueroute, à savoir New York au début des années 70, suite à des grèves à répétition de tous les fonctionnaires, principalement des éboueurs et de la police.
D'accord.
Et les producteurs de télévision sont arrivés et ont dit « Écoute, c'est pas un problème. Voilà ce qu'on te propose, mon petit maire. » On paie l'échec, mais on veut une collaboration du NIPD pour faire des séries. Et c'est
d'accord.
comme ça qu'on a eu toute la vague des Kojak et tout
mais
ça.
Il faut aussi dire que le
et
maire...
Et que ça continue encore. Hein.
Oui, mais il faut préciser que le maire de New York, à l'époque, était un ancien flic. C'était le représentant de la police, c'était le patron de la police de New York qui, après justement ce que tu as décrit, après la période un petit peu calamiteuse de la gestion financière de la ville de New York, la ville était pratiquement en banqueroute. Et lui, il s'est posé en héros salvateur en disant « bon, on va affiner les comptes, on va remettre les choses à plat, tout ça, on va remettre de l'ordre parce que New York était devenue également une ville assez dangereuse ». On va dire. Ça, c'est peut-être un langage très Front National, quoi, on va dire. Hein. Ou Jean-Pierre Pernaut.
Vous choix. Écoutez FMR.
Mais bon,
FNR.
Le fait est que il a profité de cela. Ça lui a servi électoralement au départ.
Ouais.
Mais après, il a remis de l'ordre, justement, quoi, à ce niveau-là. Il a engagé un nombre assez incroyable de policiers. Pour dire ok moi je fais mon boulot, regardez quoi, y a pas de sécurité, là je vous mets des flics en plus et puis vous allez voir ça va vachement mieux marcher. Et ce dont tu parlais juste avant quoi, la contrepartie c'est que il fallait faire un petit peu de pub comme ça dans les séries et tout. La série emblématique c'est quand même NYPD Blue. NYPD Blue, le maire fait une apparition à un moment dans un épisode, voire deux épisodes, en tant que maire de New York. Ça, c'était bien avant le financier de Wall Street, Michael Bloomberg, bien sûr. Si vous regardez dans le bureau du capitaine, interprété par James Fancy, derrière lui... Il y a la photo du maire de New York, donc le vrai maire de New York, donc qui est en photo qu'on voit pratiquement dans tous les épisodes.
Excellent. D'accord.
T'imagines pour les municipales en France, ce serait même pas envisageable.
Ah ouais, non, c'est pas du tout la même mentalité.
Sauf que là, on s'écarte complètement de la série.
Ah.
Eh oui.
Alors, j'ai une question, tiens, par rapport à X-Files. Est-ce que la série s'est terminée ? Enfin, c'est-à-dire, il y avait vraiment une fin ?
Il y a une fin, il y a une deuxième saison qui d'ailleurs est une fin un petit peu spéciale puisque tout le monde sentait que c'était un peu le final. D'abord, il n'y avait plus le cast principal, les deux personnages qu'ils ont remplacés, donc il y a Doggett qui est
Le
mec. le mec, tu vois, qui laisse rien passer, etc. Et
Robert
en même
Patrick.
Temps, qui est le sceptique de base
quoi. C'est Robert Patrick, quoi. Eh oui. C'est le T-1000, quoi.
C'est le T-1000, oui.
C'est, ah ouais.
Ah oui, ouais. Oui.
Ah oui, oui, tout à fait.
Excellent.
Et d'un autre côté, ben, justement, il y a une fille à côté de lui qui est Raïs, qui, elle, y croit à fond. Donc les rôles étaient inversés.
Ouais.
Malgré tout, ça, il y a eu un changement de créneau horaire qui n'a pas été très heureux. Il y a eu, en même temps, on va en parler tout à l'heure, donc d'une des séries qui allait se terminer, qui n'a pas marché non plus, qui était The Lone Gunman. Voilà, je vais y arriver. Donc il y a un final qui se fait, mais c'est un final ouvert. Et après, il y a eu un autre film. Et depuis juin, ils nous font la même chose que pour Buffy, à savoir qu'il y a une 10e saison en comics.
Ah, d'accord.
Donc ça continue théoriquement en comics, sachant qu'il était question de faire un 3e film pour respecter la date du 22 décembre 2012, le moment où les aliens arrivent pour envahir la Terre. Et c'est tout le cas s'était prêt, s'était libéré, etc. Et ouais. C'est la Fox qui n'a pas voulu y mettre les pognons.
Oh, c'est dommage.
Là, c'est très con.
Parce que là, c'est en plus, c'est raté.
Vous y croyez pas. Ah là
c'est foutu.
Mais néanmoins, il en est encore question dans une interview qui date de ce mois-ci, puisqu'elle est parue dans l'édition de ce mois-ci de Empire. Chris Carter dit que peut-être la date de colonisation est passée. C'est quelque chose qu'effectivement je ne peux ignorer. Pour l'instant, nous avons encore la foi, mais a priori, nous pourrions encore faire quelque chose.
Ils ont la foi, mais ils n'ont pas la Fox, alors bon.
Ça reste à voir. Comme ouais. C'est eux qui ont le copyright, c'est un petit peu gênant.
Lutte.
Bref, tout ça pour dire que la série s'est terminée d'une manière ouverte. Et après tout, des dossiers enterrés, il y en a un paquet.
D'accord.
Donc, ils peuvent toujours faire après une sous-franchise, un truc comme ça. Il y a eu des parodies dans pas mal de séries à partir de là.
Et du coup, les films sont sortis après la fin de la série ou pendant la série
Alors, ce qui s'est passé, on parlait justement de la méfiance entre les deux personnages. Chaque épisode, à ce moment-là, pendant les cinq premières saisons, c'est un type de scénario un petit peu particulier qui s'appelle le monstre de la semaine.
Okay.
Vous avez un loup-garou, vous avez un vampire. Non, il n'y a pas de vampire. Si, quoique. Vous avez des fantômes. Vous avez quelqu'un qui a eu un produit chimique sur lui ou exposé au rayon gamma, zeta, bêta et tout ce que vous voulez. Pas de problème, ça fait l'épisode, ça fait l'histoire complète de l'épisode. C'est le monstre de la semaine. Mais ça manquait des fois un petit peu de liant. Donc, ils ont commencé à introduire un complot. Chris Carter a obtenu de la Fox que entre la 4e et la 5e saison, il va faire un film. C'est Find the Future. C'est là où on apprend la date que les petits gris vont nous envahir. Donc, la fameuse date du 22 décembre 2012. Et justement, à partir de là, la 5e saison, tout est basé sur combattre le complot. Donc, le fameux syndicat qui détourne un programme secret pour sauver les humains, pour seulement se sauver eux et collaborer avec certaines races extraterrestres et pas d'autres, etc. Bref. Des tiroirs en veux-tu, en voilà, ils sont tous plus ou moins bien remplis, comme tu veux. Mais voilà, c'est ce qui fait justement la mythologie de la série en elle-même. Donc, c'est deux trames principales.
Ouais, parce que si on peut parler un petit peu de la mythologie, quoi.
C'était un peu l'essentiel du plan avant que tu dérives.
Qui fait que la série est très intéressante parce que la série commence à un moment M, mais il y a plein de choses qui se sont passées avant.
D'accord.
Et qu'on va découvrir au fur et à mesure des saisons, quand on va découvrir certains personnages. En particulier, par exemple, l'homme à la cigarette, interprété par William B. Davis, qui était d'ailleurs invité du TGS il y a 2 ans ou 3 ans.
Excusez-moi, je discutais.
William B. Davis.
C'était il y a 2 ans, oui.
C'était il y a 2 ans, donc, qui était donc à Toulouse. Et qui lui joue le rôle de l'énigmatique homme du FBI qu'on ne connaît pas et qui va instiller quelques éléments de réponse mais qui sont très sibyllins à Fox Mulder et à Dana Scully, surtout à Fox Mulder.
Ah non, l'homme à la cigarette c'est le complot, pardon, c'est pas...
Oui, c'est l'histoire du complot.
Parce qu'il y a eu les deux dans ce cas-là. Parce que c'était un black qui renseigne Mulder.
Oui, mais le black est justement le type qui était l'ancien partenaire de l'homme à la cigarette. Le black interprété par Steven Williams. Rappelez-vous, la loi de Los Angeles. Steven Williams, quand même.
Ah, quand même.
Et bon, bah, on apprend que, bah, en fait, l'homme à la cigarette, eh ben, est intimement mêlé à toutes les grandes histoires qui sont plus ou moins des trucs Portnawak où on a cherché des solutions pas possibles, dont le meurtre de John Kennedy, dont le meurtre de Martin Luther King, s'il vous plaît,
ça va
quand même. Et en plus, on fait intervenir des éléments historiques réels, vérifiés. Ouais. dont on ne peut pas douter, nier, quoi, l'évidence ni la véracité, mais par contre on va rajouter l'élément un petit peu mystérieux qui va servir également de fil conducteur pour un nombre incalculable d'épisodes. Faut dire qu'il y a certains épisodes par saison, généralement une saison fait 20-22 épisodes, on peut dire qu'il y a la moitié des épisodes en général qui ont plus ou moins de trait à cette histoire de complot. Et l'autre moitié, ce sont des épisodes qui peuvent se regarder à la limite sans avoir un background au niveau de ce qui s'est passé un petit peu avant, si ce n'est les relations entre les différents personnages principaux, c'est-à-dire Scully et Mulder. Là, c'est assez rigolo, parce que par exemple, l'histoire de l'huile noire, qui est un élément très important dans la série quand même, on le découvre dans le double épisode qui s'appelle Tunguska. Tunguska 1 et 2. Tunguska est un endroit en Russie dans lequel s'est écrasée une météorite en 1908 et qui a carrément vitrifié toute une grande partie de la géographie du pays. Ils ont réussi à retourner pratiquement dans le même endroit. Non, c'était pas à Tunguska, ils sont pas allés dans le même endroit, mais ils ont trouvé, parce que l'ensemble de la série a été tourné à Vancouver au Canada.
L'ensemble jusqu'à 6e saison.
Voilà. Donc ils ont trouvé des endroits au Canada qui ressemblaient pratiquement pile poil à cet endroit mythique. Et c'est également ce genre de petites choses comme ça qui fait prendre conscience à la majeure partie, qui a vraiment mystifié beaucoup de gens, parce qu'on s'est dit on est quand même dans le domaine du réel, c'est-à-dire on a des assises qui sont véridiques, c'est pas un truc qui vient de nulle part.
Ouais, d'accord.
Si tu veux bien faire réussir un canular, tu commences toujours par un bon truc bien réel et tout ça, vérifiable et tout ça, et après tu peux balancer n'importe quelle connerie derrière. Alors plus c'est gros, mieux ça marche.
Ouais. Voilà. Et puis c'est
un gros bug chez Pôle emploi.
Et c'est d'ailleurs dans l'épisode double de Tunguska que intervient un des personnages qui veut dire un des personnages récurrents interprété par Nick Lee, ou Nicolas Lee si vous préférez, le fameux Krychek. Wow. Et qui va être un petit peu, pas la bête noire, mais qui va être l'emmerdeur, qui va vraiment, dans pas mal d'épisodes, s'immiscer dans les enquêtes qui apparaissent un petit peu anodines, quoique elles ne sont jamais anodines, parce que c'est chaque fois des trucs complètement bizarres, des morts horribles, mais on n'arrive pas à l'expliquer et tout, et c'est pour ça qu'il faut le concours du duo Mulder-Scully. Ouais. Et Krychek est là de temps en temps pour mettre son petit grain de sel. Il dit attendez les gars, vous vous détournez du droit chemin, revenez un petit peu au complot et tout ça, mais la manière dont c'est amené et la manière dont c'est écrit fait que on est dedans quand même assez à fond
Et ça a bien
vieilli. Il y a d'un côté effectivement le monstre de la semaine, il y a la théorie du complot principal avec principalement des extraterrestres et tout ça, et bien évidemment il y a aussi les fausses pistes où sont des humains plus ou moins normaux, donc il y a des cultes satanistes, des tueurs en série. Et surtout, il y a des épisodes comiques. Il y a un épisode qui est à pleurer de rire où on suit Mulder. Mais en fait, on n'a que les témoignages de personnes diverses. Donc Mulder rentre dans un dinner un soir et commande de la gelée et dit « Vous auriez des extraterrestres dans le quartier ?» Là, tout le monde est mort de rire. Mais il y a aussi un épisode où, attention, Burt Reynolds joue Dieu et toute la bande-son, c'est un album de Carl Zero.
C'est pas vrai.
Si. L'album en question, c'est Songs for Cabriolet and Otros Tipos de Vehículos. À cette époque-là, Carl Zero est l'animateur du vrai journal. mais aux États-Unis il est totalement inconnu. Mmh. Hein, personne ne sait qu'il a joué dans un film de BHL, par exemple. Et mais il a fait un album où il a dit je veux faire un truc de cha-cha, un truc comme ça. Il a fait un album, il a produit et fait une émission sur la radio NPR, qui est une sorte de radio publique. Enfin, c'est une fondation, si vous voulez, hein. Mais qui est très intellectuel, c'est un peu l'équivalent de France Culture, et qui est écouté par les gens cultivés, dont Chris Carter et son équipe de scénaristes. Et une fois en voiture, ils sont coincés, ils entendent ça, il y a une émission d'une heure qui est consacrée sur la production de cet album, ils prennent leur portable, ils disent « Il nous faut les droits exclusifs sur cet album ». Et c'est comme ça qu'il y a un épisode dans la dernière saison qui s'appelle « Improbable », qui est à pleurer de rire avec Burt Reynolds dans le rôle de Dieu, et où on entend ça. Yo mama de tout.
J'avevo detto dal primo appuntamento. In un porta nessuno a presente.
Invece vengo frate, non sono un nepote. Solo non c'è una volta, ci ma sempre a te.
E mai promesso domani chi lo sa. Vegli soltanto, soltanto con mamma. Io mamma de tu. Passi a me patulene. Non insieme mamma d'arede.
Io mamma de tu. Sempre presso così pazzi a che sta vena puglio vaginosa.
E amo non c'è una balia.
Ci cerchiamo a Sascaria come a nu carabiniere.
Che la vena ci farà. Ah, ah.
Ma la murade sore sognate.
Non reagisco più. Io mamma de tu.
Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia.
La ta mattina non l'ha fatta Elsa.
T'andeva qualche frem.
Pareva che schiattava.
Qua sa me crevera, sci sullo gutte.
Nu fi le voce per ritrovai mamma.
Rapiceria me faccia compagnia.
Io so de tu.
Iamo palo.
Chiattamode.
Pupeto.
Moscomode. E la cacosta e più.
Per ricordo sta giornata.
Rinta villa c'è una fatta foto.
Vuoi ballone,
vuoi papà.
Non si fine.
Camara.
Guarda essa.
Guarda mare.
Sto pensame giamano. Tu m'hai guaiate. Me spuzzanate.
Non vevi vede più. Mamma de sore de tu. Io guai chaga passa, mamma de papà de fata de sore de sian, mai a te fine. Stronzo, sto pavano andaia là.
Mirinara chi me da,
ove la soffra nu mesa sto scandola.
Carità, tu m'enguaiate, me spusanate, non ve vede più,
mamma de sia de tu. Nous n'est pas sécu, pas de deux frates des tout. Nous ne ferons qu'you, maman de saurait des tout. Nous ne pas sécu.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end spécial X-Files. Et ce que vous avez entendu, c'est Carl Zero qui ne sait pas parler italien et qui chante en duo avec Henri Salvador.
Ah.
Et c'est un clip complet à la fin de l'épisode improbable de la dernière saison de X-Files, qui est à mon sens le truc le plus hallucinant. Ça
n'a
même pas été annoncé. Et c'est. Bah après, il y a d'autres chansons dans le même album comme Ça va, ça va, ou remixé par Le Tone d'ailleurs. Qui est juste à pleurer de rire. Et voilà, c'est au bout d'un moment, ils se sont dit on est capable de faire un petit peu de la création, du délire là-dessus. En même temps, une saison de X-Files, c'est beaucoup de moyens. Il faut se dire quand même que quand on revoit les deux premières saisons, on se dit les effets spéciaux sont particulièrement pourris et minables. Mais à l'époque, c'était de vrais exploits. On est quand même en 93-94, ça n'est absolument pas évident. Et le générique d'ouverture, à l'époque, Chris Carter a mis un temps avant de trouver l'ingénieur qui était capable de lui déformer le visage
ah, oui.
dans ce sens. Et donc c'est un freelance qui a fait ça.
D'accord.
Et pour ça, ils ont obtenu quand même ils ont eu le prix du meilleur générique. Je crois que c'est un Golden Globe pour ça. Quand même, c'est pas rien.
Culte.
C'est culte, voilà.
Entre autres. Hein. Entre autres. Hein, parce que bon,
il y en a eu d'autres hein, après.
Des prix, ils en ont eu au taquet quoi ils pour ont... cette série.
Ah ouais.
En tout cas, après la production du film, bien évidemment, les effets spéciaux sont largement meilleurs parce que, un, ils ont les moyens, deux, la technologie a énormément évolué. Donc, effectivement, la première moitié des X-Files, si vous commencez par là, vous risquez de trouver ça pourri, mais il faut se dire, bah oui, bah à l'époque, on savait pas bien faire les ombrages, les calibrages et tout ça, donc des fois, ça rend. C'est pas super.
Et donc voilà, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut, si on regarde la série maintenant, est-ce que vraiment elle a pris un coup de vieux ou est-ce qu'elle est encore regardable ?
Elle est regardable, elle est diffusée sur NRJ 12, croppée, ce qui est absolument honteux,
ah
puisqu'on
ouais.
perd une bonne partie
ah bah
d'image.
Oui, c'était du 4 tiers. Oui,
c'est du 4 tiers qu'on croppe pour que ça fasse plein écran sur le 16/9.
Ouais.
Après, il y a des épisodes qui foutent bien les chocottes, dans les premiers aussi,
ouais.
et ça marche toujours autant. Oui, Scully. Ah punaise, t'as changé de micro.
Ouais, j'ai changé de micro. Non, en fait, la question que je me posais aussi, c'est le délai. En fait, combien de temps se passe dans une saison ? Est-ce que c'est un an ou est-ce que en fait c'est beaucoup plus resserré en temporel ?
Il y a un spécial de Noël, un spécial d'Halloween à chaque fois.
Ouais,
on peut dire
année,
que c'est
ouais.
entre guillemets du temps réel. Ouais.
D'accord.
C'est entre guillemets, hein. Mais ça, c'est ce que l'on trouve dans la plupart des séries américaines. Hein, aussi.
Voilà, à la différence de la rediffusion des séries en France, voire en Europe, enfin, je sais pas
par
comment ça se passe dans les autres pays. Mais par contre, il est assez fréquent de voir un épisode de Noël de The Closer qui va.
Non, mais je veux dire,
comme
dans toutes les autres séries,
en plein
séries,
été.
Quoi. Ouais.
Qui va être diffusé ici en France en plein été. Alors que, bon, aux États-Unis. Comme ça fait partie, on va dire, de la culture télégénique des Ricains, c'est normal que leur série préférée diffuse un épisode qui va se passer à Noël pendant qu'il est pratiquement Noël ou Halloween, comme tu le disais avant, c'est pareil, quoi. On va faire pareil. Alors, juste pour rebondir là-dessus aussi, quoi, il faut dire que comme pas mal de très bonnes séries, il y a, on va dire, des espèces d'impératifs culturels propres aux Américains qui resurgissent dans les séries, outre les fêtes religieuses et tout ça, quoi, c'est-à-dire qui sont bien marquées dans le temps. Il y a par exemple l'hommage au film noir de la Hammer et au film noir en général dans un certain épisode entièrement tourné en noir et blanc. Qui est absolument magnifique. Le seul truc auquel on n'a pas eu droit dans X-Files. C'est un petit peu dommage, mais enfin bon, c'était peut-être un petit peu difficile techniquement, quoi. C'est le fameux épisode musical.
Ah.
C'est-à-dire
ça,
où tout le monde chante.
Ça m'insupporte,
ouais, mais
ces épisodes.
Scrubs, il l'avait fait.
Mais j'ai envie de les gifler.
Ah ouais,
à chaque fois,
aussi.
Je dis, mais c'est pas votre métier. Arrêtez ouais. tout. Ça ne sert à rien.
Non. Enfin,
depuis,
disons,
ils ont inventé Glee pour ça. Mais avant,
ouais,
ça ne sert à rien.
C'est que ça.
Oui, oui. Bah, c'est là où, justement, pour moi, improbable en fait partie, puisqu'on voit Burt Reynolds qui mime, en fait, le phrasé de Carl Zero là-dessus.
Ah, d'accord.
C'est dommage qu'on l'ait pas lu en VO, d'ailleurs. Ça aurait été vraiment très drôle.
C'est une catastrophe quand ils
chantent. Oui, mais bon, il y a d'autres exemples.
Pas que dans X-Files.
Il y a d'autres
non, dans
exemples.
Dans Star Trek, ça marche très bien.
Oui, c'est ça, quoi. On peut.
Ils l'ont fait dans Star Trek.
Le musical.
Non, je déconne.
Le musical de
gobe
Buffy.
En plus, ouais.
Le musical de Buffy,
ouais,
l'épisode
vu, ouais.
qui est absolument excellent.
Ah,
qui est d'ailleurs sorti en DVD spécial parce que, bon, bah, ok, quoi, c'était quand même assez grandiose. Même dans Oz. Ma série préférée de tous les temps, eh bien, dans la dernière saison, la sixième saison, eh bien, je crois que c'est l'avant-dernier épisode ou l'antépénultième, c'est un épisode entièrement musical. Et,
oui, mais
là,
ça a réussi à concrètement combien de séries ?
Eh bien,
parce que bon,
très bonnes séries, en fait. Celles qui durent, celles qui sont là.
Mais 24 heures chrono, ils n'ont pas fait un épisode musical.
Si. J'adore le regard du style. Non.
Ma fille s'est fait kidnapper.
Oh là là, non.
Ah ouais, il me tente de voir ça. Hein.
Non, mais ça fait partie de la culture musicale.
Je sais très bien,
de la culture américaine. Les Ricains sont quand même les gens qui ont popularisé, on va
imagine
dire.
Imagine Homeland avait fait un épisode.
La comédie musicale au cinéma. Bon, dérivée, bien entendu, quoi, des shows de boulevard. Broadway en l'occurrence, quoi. Mais quand même, bien là, c'est vrai que eux, ils ont un métier, ils ont toute cette tout ce background que, bon, bah, ok, on peut pas avoir en Europe, en France. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, on n'a pas les mêmes racines culturelles. Nous, oui. On ferait plus, bien, un épisode qui ferait théâtre, on va dire.
On va voir si Plus belle la vie veut faire un musical.
Oh putain.
Et pourquoi pas,
plus moche le musical.
Les délires manières théâtre en ce moment, c'est le petit journal qui fait ça d'ailleurs.
Mais dans une série française qui quand même cartonne, faut dire qui est, la plus belle la vie, ça
faudrait
cartonne.
Comment on m'explique ça aussi. Ils paient des mecs à Lumière TV.
Parce qu'ils sont proches des gens, je pense qu'ils font une série qui...
Je pense que les
ils
vieux
sont pas
sont...
proches de moi. Hein,
non, les vieux sont endormis.
Désolé. Bon,
je pense. Ouais,
yeah. C'est le bon créneau.
Je suis très content que tu parles de Plus belle la vie et que tu défendes cette série. Nous sommes deux.
J'ai pas dit ça.
À pouvoir défendre cette série.
Regarde.
Tu vas le regretter.
Je dis juste que parmi les séries françaises autres que Canal+, bon, parce que Canal+, c'est quand même un monde à part. Plus belle la vie, ça en sort pas mal en termes d'audience.
Canal+, quoi, c'est une
oui,
puissance...
Oui, mais c'est pas une preuve de qualité.
Canal+, c'est une puissance financière qui permet d'acheter beaucoup de bonnes séries et...
Les enfants aussi, ils en produisent.
Qui est également
ça,
obligé...
c'est un discours qu'on a régulièrement sur cette émission, oui. Va.
Et ben moi, je suis là pour débattre,
c'est pas
d'accord.
Moi, je dis tu vas te faire en... Prends pas les extraterrestres. Pendulum Granite, qui est un hommage justement à X-Files dans les paroles. Essayez de suivre. Pendulum, un groupe australien donc qui dans le morceau Granite, extrait de l'album In Silico, qui est sorti il y a déjà 4 ans. C'était un hommage plus ou moins à X-Files. D'ailleurs, le clip, il y a carrément des allusions directes hein, quand on regarde bien. Si on parlait des séries filles de X-Files, il y en a eu deux à ma connaissance. Il y a eu
Lone Gunman.
Millennium et Lone Gunman. Millennium, on a oublié, c'est une série fille avec du crossover.
Oui, il y a un crossover, mais enfin, on peut pas dire vraiment que c'est une série dérivée, quoi. Moi, je la qualifierais pas comme ça, quoi.
Moi, ce qui m'éclate, c'est quand même Chris Carter a dit qu'il a été influencé par la Bible, Dostoïevski et Marie Shelley. Si ça, c'est pas du oula crossover de fou. Et, il prenait dans l'idée de, il faut faire une série qui fasse un décompte jusqu'à l'an 2000 par un grand massacre, etc. Et c'est quand même très gore.
Oui, c'est la série noire, hein, c'est la série, on va dire, très adulte, quoi, en fait, que Chris Carter ne pouvait pas faire dans X-Files, en fait. Fallait quand même que dans X-Files, il y ait des épisodes un petit peu plus reposants, voire franchement hilarants, hein, comme c'est arrivé dans pas mal d'épisodes dans plusieurs saisons. Mais il jouait vraiment la carte de l'horrifique, du gore. Et
pas de l'orifice,
Non.
Merci d'avoir relevé.
Toi, tu vas avoir une sonde anale alien.
Alors là, ça m'étonne de toi. Franchement.
On parlait pas de tout à l'heure.
Franchement. Mais en tout cas, ça a servi.
C'est mon côté X-Files qui ressort.
Ça a servi surtout quoi, à confirmer le fait que Lance Henriksen est un excellent acteur. Et que peut-être que sur cette série, en fait, le casting était plus intéressant que le casting de X-Files. Ça c'est vraiment une assertion technique hein, dont je parle.
Insertion technique.
Assertion.
Ah, pardon.
Vous avez 4 heures.
Voilà. Elle est pas mal.
Voilà, d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à Vincent Payon en ce qui concerne la réforme de l'école, remets les cours de rhétorique.
Ah oui.
Parce que.
Et de second degré.
Ouais, merci. Mais déjà que j'ai loupé la conférence Berryer, 3e épisode à Toulouse. Enfin, j'ai un peu les boules. C'est le concours d'éloquence des avocats, pour ceux qui connaissent pas. Pour tout ça, pour dire Millennium est une série très gore. Ce qui est assez amusant, quand même, c'est que c'était diffusé dans le slot après. Techniquement, c'est juste une heure après. C'est-à-dire que les enfants se couchent tôt. Hein, c'est-à-dire qu'à 10h, on y va avec des corps démembrés, du sang, de la charcutaille partout, etc. Il faut dire que ça a été décrit comme un Seven in Seattle. C'est comme ça que ça a été pitché en fait au diffuseur Fox. C'était quand même un petit peu gore. Le problème, c'est que dans la deuxième saison, Chris Carter n'était pas là, puisque en fait, ça correspond à la production du film et de la cinquième saison de X-Files.
Il a lâché un peu l'affaire, mais il était plus ou moins obligé par la Fox, justement, quoi, de lâcher l'affaire, on va dire.
Là, tu en fais un peu trop, gentil, Coco. Hein. Tu fais vraiment beaucoup. Là, on se calme. Il y a un épisode, d'ailleurs, assez hilarant des Simpsons. Où des producteurs de la Fox regardent la grille des programmes et tu as l'après-midi, le juste prix, et la semaine, le soir, les X-Files partout, ou les Simpsons, c'est tout.
Mais très souvent, les X-Files sont parodiés dans les Simpsons. Mulder, tu le vois, il est super bien caricaturé, c'est et dans joué... le film, je crois qu'il y a aussi...
Mais en fait, c'est carrément joué par les
Et c'est
acteurs.
Joué par sa voix, enfin, oui, mais très souvent, et c'est excellent.
C'est d'ailleurs excellent. Considéré comme les meilleures apparitions humoristiques de ce côté-là dans les Simpsons.
Ouais. Tom Hanks aussi.
Voilà, il y a une autre série allez, j'y suis arrivé. Il y a une autre série fille, excusez-moi, qui est arrivée donc un petit peu après, à savoir en 2001, qui s'appelle The Lone Gunman. On avait les trois geeks de la cave, Melvin, John et Richard, qui ont leur magazine auquel est abonné Fox Mulder, et eux-mêmes ils suivent les aventures de Fox Mulder hein, dans la presse. Et ils ont eu droit à leur propre série, une série en 13 épisodes qui n'a pas super bien marché, où en fait ils sont face à des histoires un peu plus entre guillemets réalistes, il y a des histoires de complots ou des fausses histoires d'aliens, des trucs comme ça, pour remplir donc leur journal. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est le premier épisode qui a été diffusé le 4 mars 2001. À savoir qu'une agence gouvernementale américaine compte détourner un Boeing 727 pour l'envoyer dans le World Trade Center.
Ah.
Les scénaristes, quand même, ont dû se sentir un petit peu bizarre en septembre de la même année, en se disant « Eh merde !» J'imagine quand même que là, ça a dû faire un petit peu bizarre. C'était quand même beaucoup plus humoristique quand même dans ALEV. Et la série n'ayant pas bien marché, on demande à Chris Carter de mettre un terme, ce qu'il fait dans un épisode de la dernière saison des X-Files, dans un épisode qui s'appelle « Jump the Shark ». Alors, « Jump the Shark », c'est une expression très particulière dans la télé américaine. On revient en arrière, on revient dans les années 80, au début des années 80, on est à l'époque des jours heureux, The Happy Days, Carton à mort.
Sunday, Monday,
exactement. Happy Day. Et on fait des épisodes spéciaux. Et on va faire un épisode spécial où Fonzie est à la plage et la bande mauvais garçons locaux leur dit « Tu n'es pas capable de sauter par-dessus le requin en ski nautique. » L'épisode était tellement minable que c'est de là qu'est restée l'expression « Jump the Shark ».
D'accord.
C'est dans la série.
Ils ont marqué l'histoire finalement.
Mais il l'a fait ou pas finalement?
Ben oui, c'est le cliffhanger. C'est non, il va pas le faire. T'as la pub et ouais, il l'a fait. Ouais,
c'est Fonzie quoi.
C'est Fonzie.
Il y a le film Fonzie qui va sortir français.
Qu'on ira avec, pas voir.
Non, mais Happy Days, ils ont eu plein de séries filles. Il y a eu une série fille où il y a eu un extraterrestre.
Avec José Garcia.
Il y a eu une. Non, avec un extraterrestre, je te dis.
Ah, pardon.
Il y a eu plein de séries filles de ce côté-là où ils ont été dans le plus ridicule les uns après les autres. Et là, ouais. Bah non, c'est l'épisode où ça se casse la gueule. Et là, justement, Chris Carter dit bon, de toute façon, X-Files, c'est terminé vu les chiffres d'audience que l'on a actuellement. Donc, on va faire Jump the Shark pour terminer la série filles. Voilà, comme ça, en crossover. Ce qui était assez allumé quoi de son côté là. À côté de cela, donc outre ces histoires, à part, il y a les films. Il y a donc le Fight the Future qui se passe au moment de la cinquième saison où ça a été tourné vraiment dans la lignée de la série. Et c'était fait pour que ça suive en fait. Le côté scénaristique. Il y en a un qui est pas du tout d'accord, qui fait le con depuis tout à l'heure. En quoi ça n'est pas bien?
Non, on dit que la bande son qui est derrière.
Elle est trop glauque, sérieusement.
Je fais exprès et je vous emmerde.
Moi, je vais me.
Vous avez qu'à faire la prog. Non mais.
Adieu.
Tout en faisant la réalisation et en.
Ah bon, DJ Moule, on en parle plus. Ah.
Si tu pouvais arrêter d'ailleurs de m'exploser et lui mettre, ça me ferait plaisir. Bref, tout cela pour dire, donc il y a effectivement ce film qui est plutôt bon, et il y a eu un autre film bien après, le I Want to Believe, qui a été fait bien après la fin de la série, où on retrouve Fox Mulder au fin fond d'une cabane du côté de Toronto, comme le reste de la série d'ailleurs, où il y a une histoire indépendante qui se passe en soi. Et après, il y a un troisième film qui était attendu depuis un bail, depuis un bail, depuis un bail. Et donc, on a cette dixième saison en comics. Du sport, je suppose que t'as vu ni les films, ni les comics.
Non, et je m'en porte pas plus mal, franchement.
Oh. Ah, et quand même, Buffy, à ce qui paraît, ça déchire en comics.
C'est surtout pour rester sur une bonne impression, hein, d'ailleurs, à propos d'X-Files. D'ailleurs, parce que il faut bien dire que bien que dans la dernière saison Robert Patrick ça le fait, il n'y a pas de problème, l'antagonisme existant entre lui et sa collègue de bureau est sympathique pendant quelques épisodes, enfin s'essouffle quand même assez vite. Mais ça c'est mon avis vraiment très, très personnel. Je voulais revenir sur les nombreuses récompenses qu'a obtenu cette série, en particulier aux Emmy. Alors c'est vachement marrant parce que aux Emmy Awards, ils ont jamais obtenu l'Emmy de la meilleure série, jamais. Et par contre, meilleur générique, ça c'était en 94, donc la première saison, ok, c'était la nouveauté. Et puis effectivement, c'est un générique qui marque quand même. Hein,
ça a été
réutilisé maintes fois.
Ah, mais de toute façon, tous les magazines du paranormal et tout ça se sont dit « Ah, il me faut un truc à la X-Files. Vous êtes monteur, c'est une catastrophe. »
Plusieurs fois, meilleur scénario pour un épisode. Meilleur acteur invité, Peter Boyle. Alors moi, ça m'étonne pas du tout parce que Peter Boyle, quoi, c'est un acteur grandissime, excellent, très bon, qui n'est plus des nôtres, désolé. Il était un petit peu âgé quoi, hein, mais également Gillian Anderson, meilleure actrice en 97, et au Golden Globe, et bien là deux fois la meilleure série dramatique en 95 et en 97, et en 97 les deux conjointement, c'est-à-dire Duchovny et Anderson, meilleur acteur et actrice dans une série dramatique. Et encore une fois, en 98, meilleure série dramatique pour les Golden Globes. Ce qui veut quand même dire que bon bah, ce n'est pas n'importe quoi comme série.
D'un autre côté, ben, après la série, qu'est-ce qu'il en est resté ? Eh ben, les séries de conspiration avec des complots à rebondissements, à tiroirs, avec des tiroirs dans les tiroirs, des tiroirs, des tiroirs, des tiroirs dans les tiroirs, du fantastique, du glauque, du noir, du violent, eh ben, des hommes en noir et tout ça, on en a eu un paquet. Alors là, on est en train d'écouter, bien évidemment, Nine Inch Nails. Vous allez me dire, ça fait assez American Horror Story. Ben justement, c'est l'exemple de série qui, à mon sens, aurait eu bien du mal à exister s'il n'y avait pas eu X-Files pour préparer un peu le public à ce genre de série très noire. Il y a eu Lost, spécialiste du scénario incompréhensible et imbitable. Non ? Je vous ai paumé.
Et il y a également Fringe.
Ah, il y a eu Fringe, il y a eu Dark Skies, il y a eu Warehouse 13, 11th Hour, bien évidemment. Et les producteurs de Doctor Who, quand ils ont vu que le nom de code Torchwood pour la renaissance de la et série oui. marchait bien, ils ont dit, c'est vrai qu'on ferait bien un X-Files comme ça, Torchwood. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, on voulait un X-Files anglais, c'est-à-dire où tout le monde boit du thé à 17h. Et en soi, ben justement, c'est une réussite. En soi, justement, ces séries ont bien marché. Après les acteurs en eux-mêmes, et encore une fois, c'est au moment où j'ai besoin du sport qui se barre.
Du sport !
Il va s'hydrater.
Rapporte du café.
Du coup, on peut pas parler de David Duchovny ou de Gillian Anderson, de ce qu'ils ont fait après. Bah, bon,
mais si, on peut en parler. Il écoute, la radio, il peut l'écouter n'importe
mais
où.
Non, sans lui, c'est pas drôle.
Oh, bah merci, t'as
donc
vu
en fait,
nous,
on sert à rien. En fait, on va quitter ce plateau.
Enfin, cette table.
Moi, ce je plateau. Dis... Carrément.
Mais je dis pas rien si les extraterrestres le capturent à chaque fois au moment le plus critique de la série.
Je sors de mon placard.
C'est la zone 51 à lui tout seul. Hein.
En tout cas, c'est les X-Files ont eu mais... énormément de séries, de romans de fans, de comics de fans. On va dans les grandes conventions américaines. Forcément, c'est le co-star le plus facile ouais. à faire, même plus facile même que les Men in Black. Qui d'ailleurs, bah, les Men in Black, encore une fois, n'auraient peut-être pas pu exister sans justement l'arrivée des X-Files.
Et parce qu'on n'aurait pas su qu'il y a des extraterrestres. Hein, de toute façon.
Ouais, moi, je savais pas.
Non, mais le co-star, le prestige de l'uniforme, le mystère et le... Non,
et
non,
les,
vous n'êtes au grand de rien. Regardez la petite lune.
Et les Blues Brothers, non ? Ils étaient en co-star ?
Il y a moins d'extraterrestres tout de suite.
Oui, forcément, mais je sais pas, ils parlent des co-stars. Donc moi,
ouais, mais ils dansent.
Et mais une blague aussi, des fois.
Ils sont habités.
Tout ça pour dire que David Duchovny a voulu casser plusieurs fois le personnage qui lui est attaché. C'est pour ça, au bout d'un moment, qu'il a commencé à partir quand même de la série. D'abord, il a dit « ça me fait chier que ça soit à Vancouver », etc. Ensuite, eh ben, il a fait des apparitions dans des shows qui étaient plus ou moins comiques. Et après, il y a eu « Californication ».
Dont cette fameuse apparition dans un épisode de « Larry Sanders Show ». Dans lequel Larry Sanders Show est une série qui reprend le concept des talk shows américains, ouais. David Letterman, Jay Leno ouais. et tout ça. Mais sauf que là c'est Gary Shandling qui interprète le rôle d'un animateur de talk show et qui invite des acteurs, des actrices, des musiciens, des musiciennes, mais dans leur vrai rôle. Et là, il y a l'épisode fameux où David Duchovny est invité du Larry Sanders Show. Et où Larry Sanders, un petit peu avant le début d'émission, on vient le voir dans sa loge et tout, et on voit David Duchovny uniquement vêtu d'un peignoir et puis lui proposer la botte. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore X-Files qui tournait, quoi, parce que le Larry Sanders Show a été diffusé pratiquement à la même époque. À la même époque que X-Files, et là vraiment c'était l'occasion pour David Duchovny justement de casser un petit peu son rôle de l'agent un petit peu mystérieux, un petit peu loufoque, borderline.
D'accord.
Et là en plus il révélait une sexualité qui n'était pas évidente à l'époque, du moins à la télé, et qui cassait carrément quoi avec le rôle qu'il tenait quoi dans
et il a fait exprès
dans X-Files quoi. Vraiment. Et là c'était surtout un talent d'écriture de la part des scénaristes de la série de toute façon.
D'accord.
Ça aussi quoi.
Il y a eu aussi une série parodique en 2001, un film parodique en 2001 qui s'appelle Évolution. Qu'il réalise, ouais. Où il a le rôle principal.
Tu crois
très fun.
Tu crois que c'est parodique ?
À mon sens, ouais.
Non, je croyais que
c'était. Surtout
un film
à la fin,
sérieux.
la grosse pub à la fin pour Eden Shooters, quand même. Je trouvais que c'était un petit peu gros. Mais vous l'avez pas vu. Non, ça, c'est assez marrant.
Ouais,
ça,
c'est rigolo,
un film
quoi.
À grosse bestiole. Voilà.
D'accord. Ouais.
Voilà, et qu'il réalise et tout, et qui se termine par une grosse pantalonnade.
Ouais, qui d'ailleurs de temps en temps repasse sur Sci-Fi.
Il me semble, ouais, c'est pas la seule. D'un autre côté, Gillian Anderson a eu une activité de doubleuse, hein, puisque Princesse Mononoke a été diffusée cette semaine dans la version américaine, elle double l'un des personnages. Elle a aussi été dans une série anglaise, si je me trompe. Any Human Earth, voilà, je vais y arriver.
J'aime ton accent.
Et oui. Elle joue actuellement dans la série Hannibal.
Ah oui, sur Canal. Ouais. Avec
Mads.
Voilà.
Entre autres.
Voilà, donc ils ont chacun à continuer de leur côté. Mais c'est vrai que c'est un truc qui leur colle à la peau. Ils disent, bon, ok, pour un film, mais ouais, bon, pour le fun, enfin, pour le pognon. On y comprend, parce qu'ils sont un petit peu difficiles à, entre guillemets, à recaser, puisque à chaque fois, pour David Duchovny, je crois que c'était des trucs à son initiative, justement, sur les séries et tout ça. C'est lui-même qui envoie, qui dit, je veux faire tel truc, et c'est lui qui tient plus ou moins le pitch. Hein. Donc voilà.
Top.
Voilà, on ne va pas parler des jeux, parce qu'il y a eu des jeux de cartes, il y a eu des jeux sur PC, il y a eu un jeu sur console, sur PlayStation, il me semble, sorti en 99, donc c'était en parallèle avec une histoire, avec un épisode. Il y a eu plein de choses de ce côté-là, en tout cas c'est quelque chose qui a marqué l'histoire à la télévision, et les nuits d'horreur. Bref, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'était pour un petit dossier X-Files. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose de plus à dire.
Comme conclusion, quoi, je peux vous juste vous lire
les 45 pages.
Un excellent article. Enfin, c'est pas un article. Enfin, bon, c'est une
livre.
Un livre carrément, quoi, avec des photos dedans, quoi, quand même. Il y a du texte, mais il y a des photos dedans, qui était sorti en 98 et qui s'appelle Les nouvelles séries américaines et britanniques 96-97, et écrit par Alain Carazé et Martin Winkler.
Ah bah tiens. Donc,
on va dire
des grands spécialistes,
des sommités en la matière de séries en tout genre. On en est à la troisième saison de Aux frontières du réel. C'est le titre français, quoi, de cette série. Et une phrase dit: la troisième saison d'Aux frontières du réel accumule donc les incohérences de scénario, et faute d'un resserrement de sa trame narrative, la série risque aujourd'hui de perdre sa crédibilité. On en était qu'à la saison 3. Ça a encore duré pas mal de saisons, et puis bon,
ils ont pas été très clairvoyants.
Effectivement, si. Mm. Effectivement, quoi, on peut se dire que ça s'est un petit peu délité, quoi, sur la fin, mais qu'il restait quand même l'ossature originelle qui tenait la route au départ, quoi.
Ça me donne envie de les regarder, du coup. Je vais me mater des épisodes.
Bon courage.
Ah ouais, à ce point. D'accord.
Ah ben,
il y en a un paquet.
Huit saisons, ça fait beaucoup d'épisodes.
Bah écoute, ouais, là j'étais en train de regarder.
On va commencer par le début, peut-être, déjà.
Tant qu'à faire. Hein.
Voilà.
9 saisons.
Je me trompe, c'est le samedi à minuit sur NRJ 12. Ils en passent depuis leur création.
Ou quand vous voulez sur Internet.
Dans le désordre.
Oui, mais s'il n'y a pas l'épisode 1 de la saison 1, ça sert à rien.
C'est un peu
le
bordel, je te le concède totalement.
J'ai envie de citer également un autre épisode qui est assez hilarant, on va dire, mais pas tellement, parce que bon, c'est un épisode qui a été fait à la façon 2 d'un certain Kurosawa. Avec les sept samouraïs, c'est-à-dire le point de vue de chaque personnage qui raconte une histoire différente. Et il y a un épisode de X-Files où, justement, au départ de l'histoire, et Duchovny et Gillian Anderson, dans leur rôle, sont interviewés par des enquêteurs, hein, qui essayent de foutre la merde, qui essayent de les mettre de côté et dire « Bon, maintenant, ça suffit, les gars, vous avez franchi le cap, vous avez fait le truc de trop ». Et donc, l'épisode se concentre sur la narration d'abord de David Duchovny, qui raconte son histoire à lui, sur les mêmes faits, et ensuite celle de Gillian Anderson. et c'est un des premiers épisodes où justement à la fin, eh bien on se rend compte que Gillian Anderson, qui au départ eh bien ne partage pas du tout les avis, ça on l'a dit en préambule pratiquement de ce dossier, les façons de faire de Mulder, eh bien est obligée plus ou moins de le couvrir sur la fin, et c'est vraiment très très finement mené quoi. C'est un épisode qui fait partie des bons épisodes, des très bons épisodes de la série.
Tout à fait.
Bon, il faut que je regarde tout alors.
Si on parlait de complot, mais cette fois-ci dans les comics.
Ah ouais.
Ah alors, Rodolphe, celle-là elle est pour toi.
Rodolphe, elle est pour toi celle-là.
Donc notre invité de la semaine dernière, oui, nous l'a nous dit écoute, hors ouais. antenne.
C'est non, vrai. Non, c'était à l'antenne.
Il l'a dit, oui, pardon, excuse-moi.
C'était
oui,
à l'antenne, hein, on lui demandait s'il lisait ouais. un petit peu de bande dessinée, des trucs comme ça. Ah, il nous avait cité Transmétropolitane, il nous avait cité...
Qui illustre son Tumblr, d'ailleurs.
Voilà, d'autres comics tout à fait regardables, enfin, en fait, des très bons comics. Quoi.
Ah oui, oui.
Et The Boys.
Et là, t'étais content.
Et
ouais, de la part
disant...
d'un communiste, je me dis, il a une bonne ouais, culture ouais. américaine.
Et en nous disant, ouais, pas. Non, mais bon, tu sais, le tome 18, la charge de la brigade légère, c'est le dernier, il n'y en a pas d'autre et tout. C'est vrai que dans le 18, la charge de la brigade légère, eh ben, on assiste au fight final. C'est, bon, un feu d'artifice absolument magnifique, hein, toujours de la plume de Garth Ennis, quoi, et du dessin d'Eric Robertson et d'autres, quoi, selon les fascicules. Parce qu'il faut quand même rappeler que cette série sort en fascicule au départ aux États-Unis, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mercredis généralement dans vos comic shops favoris aux États-Unis. Eh bien, vous achetez juste la petite histoire qui va faire 10, 15, 16 pages, et après vous attendez le mercredi suivant pour la suite. Alors que ben ici en France, eh bien au départ, hein, c'est Panini Comics qui avait sorti les premiers tomes de The Boys. On sait qu'il y a eu des rachats d'éditeurs et tout ça, et maintenant ça sort, c'est 100% Fusion Comics, quoi, une déclinaison, tu me corriges si je me trompe,
de Urban,
Dargo. Exactement, quoi. Donc
on Dargo, perd pas... le groupe Dupuis, le groupe Pèlerin Magazine.
De toute façon, on s'en fout parce qu'on n'y perd pas au change, hein, de toute façon, vu le fond. Et là, eh bien, on a enfin, et puis là, c'est marqué, hein, il y a même le sticker dessus, dernier tome. Et c'est bien ce qu'on avait essayé de lui expliquer à Rodolphe, c'est que bon, selon ouais. la numérotation des fascicules, eh bien, il en manquait un petit peu. Et puis Thomas avait justement dit, oui, mais qui est vraiment derrière tout ça, toute cette histoire ? Et on se rend
c'est
compte.
C'est un complot.
Oui, des complots, il y en a beaucoup dans The Boys, hein, de toute façon. Surtout les complots qui sont menés par Vought American, qui, dans ce tome, ça, c'est un des trucs que je peux révéler, quoi, sans trop dévoiler de trucs, est rebaptisé American Consolidated. Mais dans le discours de Garth Ennis, c'est une critique absolument acerbe sur le monde de l'économie, sur le monde des entreprises, sur le monde de Wall Street. Ça, bien sûr, il fallait s'y attendre. C'était pas enfoncer une porte ouverte, enfin, pour la plupart des gens qui sont un petit peu sensés intellectuellement, quoi. Mais bon, ça fait partie du truc. Et ça fait toujours plaisir que dans un comics purement américain, quoique il soit fait par un Irlandais du Nord, Garth Ennis est originaire de Belfast, Derek Robertson, lui, est américain, mais enfin bon, on va dire hein, plutôt de l'aile gauche, de la gauche, de la gauche. Donc il n'y a pas de problème. Mais Derek Robertson, c'est le mec qui fait les dessins, quoi. Quoique des fois, les dessins nous enseignent pas mal de choses et nous montrent des petites choses qui s'expliquent aussi facilement, peut-être, qui se comprennent aussi facilement que les nombreux discours ou n'importe quoi, toutes les gloses possibles et imaginables qui sont insérées dans les phylactères de la bande dessinée. Juste pour vous lire une des pages et quelques répliques qui situent bien l'histoire du début jusqu'à la fin, parce qu'en fait, on arrive au final et on se dit, bon, mais qu'est-ce qui peut rester après ça, parce que tout le monde a été fighté, les super-héros, le protecteur s'est dégommé et tout, quoi. En fait, le protecteur, c'était même pas lui le plus méchant, quoi, c'était Black Noir, qui était un espèce de clone psychotique du plus grand des super-héros, genre Superman, mais enfin bon, façon Garth Ennis, ouais. bien sûr. Et là, ben, on retourne, ben, on va dire, il y a pratiquement pas de super-héros dedans. Non, ils ont tous été dégommés. Il y a une super fight, quoi, entre l'armée américaine, entre les petits gars, c'est-à-dire The Boys, qui se passe dans le jardin de la Maison Blanche. Ben oui, faisons les choses en grand, il n'y a pas de problème, c'est normal, on y va. Depuis le début, on y va à fond les manettes, il n'y a pas de raison que ça continue pas. C'est pour ça qu'on aime bien The Boys. Et là, bien, on va dire que la boucle est pratiquement bouclée. Et là, bon, même visuellement, c'est assez rigolo parce que l'une des dernières pages de la conclusion de The Boys, hein, qui s'appelle « On ne prend plus de gants »,
parce que jusque là ici elle est en finesse.
Ouais, bah, wow. Bon, okay. Ouais, tu vois, ouais. Billy Butcher et tout, quoi.
Oui,
au départ, bon. Lui, bon, bah là c'est le pied de biche, et derrière tu le vois, là c'est le lance-roquette, quoi. Ok, et là, bah, on apprend pas mal de choses qu'on devinait plus ou moins dans les tomes qui étaient réservés à l'histoire ancienne des gars qui composent, des gars et de la fille, hein, qui composent justement cette équipe de chargée par la CIA en principe, eh bien, de contrôler les gars aux super power, les super slip comme ils disent, mais qui des fois provoquent quelques dommages collatéraux. Et il faut dire que le truc de départ de la série, c'est un dommage collatéral, hein, qui inclut un petit Yugi, quoi, qui va justement, quoi, être embauché avec The Boys, quoi. Pas seulement pour une histoire de vengeance, parce que vengeance il y a, mais justement c'est dans le tome précédent, le tome 18, hein, et là, bien, on va dire c'est un épisode, c'est un truc assez bavard, mais qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, parce que là, ben, on se dit, ok, quoi, la messe est dite, il n'y a pas moyen peut-être de faire autre chose, d'avoir une suite à ce qui se passe là-dedans, parce que tout est pratiquement bien expliqué, mais c'est surtout une explication très personnelle entre des gens qui se sont côtoyés, qui se sont aimés, qui se sont respectés, et qui là, passent un petit peu à autre chose. Et comme j'ai viré le signet, quoi, et que je commence à tourner des trucs et tout, quoi, j'ai carrément...
Ah, c'est pour ça, voilà, que tu
le marque-tapage.
Voilà, quoi, le marque-tapage, il a dégommé, quoi, carrément, ça, quoi. Ouais. Alors, si je le retrouve pas, tant pis, quoi, mais enfin, bon, c'est quelque chose qui résume bien, en fait, l'ambiance qui existait dans The Boys. Alors, attention, il reste pas grand monde à la fin. C'est tout ce que je peux vous dire.
Ta gueule !
Ok ?
Ta gueule !
Il reste pas grand monde à la fin, mais par contre, eh bien, la manière dont c'est amené, quoi, c'est carrément tout à fait excellent, génial. C'est Garth Ennis, Russ Brown et Darick Robertson pour le dernier tome de The Boys. On ne prend plus de gants. Et petite précision, ce tome est un peu plus cher que les tomes précédents qui faisaient entre 11 et 12 euros, mais est nettement plus épais.
Ouais.
Hein, alors, à la place de faire deux tomes qui auraient été un petit peu fins, ben, ils se sont dit, ben, pour le dernier, on va faire la totale et tout. Mais c'est aussi dû à toute l'histoire scénaristique de la conclusion, en fait, de cette magnifique histoire de The Boys. Donc, vraiment, à vous conseiller, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez déjà, ben, vous allez l'acheter, ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est la conclusion. Et on va dire que pratiquement tout le monde en prend pour son grade. Sauf celui auquel on s'attendait pas.
D'accord, je demande à voir. On verra ça en tout cas.
Ah,
merci,
ben,
merci de ne pas spoiler. Faut dire que c'était une série chouchoute de l'équipe masculine de l'émission.
Oui, mais là c'est très difficile. C'est très difficile de d'en parler sans spoiler quoi.
Ouais,
je sais,
je souffre à chaque fois quand je chronique des bonnes BD et que je me dis putain, faut pas que je dise ça.
Oui, mais là encore plus. Là encore plus quoi.
Non, comme d'hab.
Rodolphe, si tu nous entends, on t'a pas spoilé.
Bon, eh ben, je pense qu'il va falloir passer à la télé.
Ah bon ?
Ouais. Ou ne me dis pas que tu n'as pas de télé.
Ah ben non.
Mais tu n'as pas de télé.
Ah ben non.
Mais mon Dieu.
Mais non.
Mais nous sommes pile à l'heure.
Mais damned.
Il est
13h27.
13h27.
En fait, je crois qu'il attendait que ça. Que tu dises quoi, la télé ? Mais j'ai pas de télé.
Non,
mais
je regarde pas la télé, moi.
C'était marqué dans le script. Tu l'avais pas vu ?
Alors si, je peux juste. Allez, vite fait, juste un petit retour sur Nashville dont je vous ai parlé la semaine dernière, diffusé sur
Ah oui.
TF6 le dimanche soir. une série qui se passe à Nashville. La confrontation entre une chanteuse de country qui a connu son heure de gloire mais qui commence à être un petit peu sur le déclin.
Et camée.
Financièrement parlant, non, elle n'est pas camée du tout, quoi. Et une petite jeune qui monte, interprétée par Hayden Panettiere.
Oui.
D'accord. Et
The Heroes.
On pouvait s'attendre au départ, eh bien, à une espèce de confrontation un petit peu bidon qui s'essoufflerait assez vite dans la durée de la série, mais il s'avère que la série est un peu plus complexe que ça au niveau de l'histoire, puisqu'il y a d'autres personnages qui interviennent, qui viennent foutre un petit peu la merde entre les deux, mais c'est une excellente série musicalement parlant, quoique il faut vraiment aimer la Nashville Country. Quelques morceaux sont vraiment très très sympathiques. Une des particularités de la série, c'est qu'elle surfe sur le succès de Glee, qui est une série vraiment musicale et dont tous les épisodes sont téléchargeables dès le lendemain, et les morceaux musicaux surtout, quoi, également. Là, c'est également le cas pour cette série où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de morceaux musicaux. Les chansons sont interprétées du début jusqu'à la fin, que ce soit de la country merdique de Nashville ou même des trucs un petit peu plus folk country, quoi, comme moi j'adore. Et là, c'est ce qui fait un petit peu le charme de la série. Eric Close est absolument génial dans cette série, car c'est quand même le gendre du papa de la chanteuse country sur le déclin, qui est interprété par Powers Booth. Excellent acteur que moi j'adore de toute façon, et qui là, dans le rôle d'un espèce de grand enfoiré bien puant qui manipule absolument tout ce qui se passe, c'est un mec qui est fortuné qui veut construire le nouveau stade de football américain à Nashville et qui va carrément essayer d'influer sur la nomination et l'élection du nouveau maire de Nashville. Et c'est pour ça qu'il va proposer à Eric Close d'accepter la nomination pour l'élection, quoi, en face du poulain qui a toujours été le protégé de Powers Booth au départ. Bref, plusieurs intrigues qui se mêlent comme ça un petit peu habilement, c'est pas mal. Ce n'est pas la série du siècle, ce sera une série qui sera certainement oubliée dans quelques années, mais c'est quand même assez regardable. Du moins si vous supportez la musique.
Ça va.
Bah quoi ?
Ça vous changera pour cet Halloween. Dans le planning, si vous sortez, sachez que jeudi soir, à l'Utopia Tournefeuille, il y a la 5e nuit fantastique. On en a parlé la semaine dernière. L'émission est toujours en ligne, d'ailleurs, sur le site du Supplément Week-end. Pour en savoir un petit peu plus, bien évidemment, je vous invite à aller sur le site de l'émission supplementweekend.fr, où vous aurez, bien évidemment, le programme, l'interview et plein d'autres choses. On peut y retrouver aussi nos chroniques comme par exemple la BD de Soledad ou Mamada et plein d'autres choses. Et vous pouvez bien évidemment nous écrire.
Alors si je pouvais.
Écrivez-nous, ouais.
Si je pouvais ajouter juste un petit truc commercial, c'est quand même une des bonnes librairies de bande dessinée de Toulouse, BDciné pour ne pas la nommer. Aujourd'hui, si vous allez à BDciné, automatiquement, on vous offrira, même sans acheter quoi que ce soit, si vous rentrez dans le magasin et puis que vous êtes là, que vous commencez à mater les murs de bandes dessinées qui sont là et puis qui sont tous vraiment très très bien fournis.
Tu vas pas y arriver à le dire.
Eh bien, on vous propose 3 fascicules gratuits. Je le dis bien, à toute personne qui rentre dans le truc. Et si vous achetez un canard, ou une bande dessinée, ça monte à 6 plus.
Il vend bien. Hein.
Et tout ça.
Ouais.
On a envie d'y aller. Là.
Ouais, voilà. Allez acheter le nouvel Astérix, il peut être que meilleur que le précédent, où le ciel lui était tombé sur la tête.
Là, t'es dégueulasse pour ton pote Ferry, là.
Oui, je sais. Hein. Non, j'ai dit qu'il était meilleur.
Ah bon, d'accord.
Vous écoutez Radio FMR, c'est 89.1 MHz. Dans le résumé, aujourd'hui, il y avait des monstres, des complots, de l'huile noire et plein d'autres choses. Et si vous avez manqué tout ça, n'hésitez pas sur la diffusion différée. Vous pouvez réécouter cette émission, écouter les précédentes, nos chroniques, passer le courrier des audilecteurs, écrivez-nous Allez-y, n'hésitez pas.
Tweetez-nous.
Il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr sans accent ni tiré supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle en modulation de fréquence analogique. Nous sommes en direct sur cette fréquence en alternance avec Booster FM. Et la diffusion se fait 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur www.radio-fmr.net. Le prochain épisode n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on sera chacun vaqué à nos occupations, je sais pas. Moi, ouais, j'aurai une voiture à démarabouter, ultimatum, je crois qu'il est question d'un monstre qui crache de la purée de pois, alors qu'il veut essayer de la lui faire avaler. Du sport, je crois qu'il est question de trois petits oursons, et je ne sais pour Morgan, et je ne sais pour Sushi.
Question de Charente-Maritime.
Et moi, à Marseille, déguisé en citrouille.
Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous allez vous faire visiter vos apparts, c'est un peu con. Allez, ciao, bye bye, rendez-vous dans 15 jours.
Ciao.
Avec une chemise un peu moins hawaïenne et peut-être pour la nouvelle saison.
Mais carrément.
Et peut-être pour le plus court supplément week-end.
Elle n'est pas hawaïenne, c'est un fake ta chemise.
Ah oui, non. Parce que je fais mes 20 ans d'antenne, bande d'enfoirés.
Et on le sait, banane.